alors ce soir, et de vous voir un peu plus nombreux, je pense, que hier soir. Et nous sommes très heureux dans la présence de chacun, et de vous en particulier, je vous parle. J'espère que ce soir, vous allez être suffisamment attirés par la parole qui sera dite, que demain soir et encore dimanche matin, si Dieu veut, vous serez encore parmi nous. J'apprécie beaucoup la prière qui a été faite tout à l'heure, parce que je sais que quand je parle de moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour m'exprimer, pour dire ce qui doit être dit en ce moment. Et je sais que vous avez prié beaucoup, ceux qui sont membres de cette petite assemblée, pour la réussite de ces efforts. Et aussi, je reçois des paroles, même de nos amis aux États-Unis, à nos membres de nos familles, etc., qui nous disent, nous prions continuellement pour vous. Et je suis vraiment conscient ce soir du fait que Dieu est avec nous et qu'il nous aidera à cause de ces prières qui ont été offertes à notre égard. Et je suis heureux aussi de pouvoir traiter un sujet qui, pour moi, est très difficile à traiter. Très difficile du fait que je ne suis pas le premier et vous n'êtes pas non plus sans doute le premier ou la première à penser à savoir pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui s'appelle Amour, ne met pas un terme à la souffrance, à votre souffrance particulière et puis à la souffrance en général dans le monde. Nous souffrons souvent, personnellement, et on se demande pourquoi est-ce que Dieu permet que nous souffrons. Et puis nous voyons ceux de notre famille qui souffrent, et cela nous peine énormément. Et encore, nous demandons pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis fin à cette souffrance. Ou nous voyons le monde autour de nous, des petits-enfants, des gens innocents qui souffrent, parfois à cause des désastres naturels, ou parfois c'est à cause des guerres, du terrorisme, que sais-je. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ces moments. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu ne met pas fin? Pourquoi est-ce qu'il ne permet à des gens de souffrir alors qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive? Mais je dois vous dire que ce sujet a été aussi troublant pour beaucoup de gens à travers les siècles. Les gens, même les plus saints, se sont demandé pourquoi il devait souffrir. Il suffit par exemple de lire les psaumes, la plupart des psaumes écrits par David, le roi David. Et il demande souvent dans ces psaumes, pourquoi Seigneur est-ce que tu entends? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas fin à toutes ces difficultés, toutes ces épreuves par lesquelles je dois passer? Et puis je lis le livre d'Habacuc, le prophète dans l'Ancien Testament, qui pose la question, pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que le mal prime parfois sur le bien? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas fin à toutes ces difficultés auxquelles nous sommes assujettis? Et surtout quand je lis le livre de Job, vous connaissez l'histoire de Job, l'homme qui a été si patient dans ses épreuves, dans ses souffrances. Et quand je lis le livre de Job, je compte au moins une vingtaine de fois que Job pose la question, pourquoi? Pourquoi? Il ne comprenait pas. Et vous pouvez lire le livre de Job, il y a 42 chapitres dans ce livre. Et quand vous arrivez à la fin du livre, Dieu ne donne pas une réponse. Il ne dit pas à Job pourquoi il souffre. Nous savons pourquoi, mais Job n'a jamais su pourquoi il souffrait. Nous allons revenir à Job tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne met pas fin à toutes ces souffrances? Il y a plusieurs questions qui se présentent. Dieu est-il lui-même responsable de nos souffrances? Est-ce lui qui nous fait souffrir? Ou bien Dieu n'est-il pas assez puissant pour qu'il mette fin à nos souffrances et à nos peines, à nos douleurs, à nos tristesse, à nos épreuves? N'est-il pas le Tout-Puissant? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose pour arrêter tout cela. Et puis, nous savons que Dieu est amour. Et si Dieu est capable, le Tout-Puissant, de mettre fin à ces choses, pourquoi dans son amour est-ce qu'il ne le fait pas? Il y a beaucoup de questions qui se présentent à l'esprit quand nous parlons de la souffrance et des épreuves humaines. Voyons d'abord quelques raisons pourquoi l'on souffre. Il y a plusieurs raisons pourquoi l'on souffre. Il y a d'abord le fait que on souffre à cause de ses propres péchés, à cause de son imprudence, à cause de son indulgence, de certaines passions de la chair. Nous savons que celui qui boit à excès et qui devient alcoolique souffre à cause de son indulgence dans l'alcool. Ou celui qui est addicté aux drogues, il en souffre par la faim. Alors il est responsable lui-même de ses souffrances. Il arrive parfois dans la vie qu'une personne souffre du cœur parce qu'il a beaucoup fumé. Il va au médecin, le médecin dit, c'est dommage monsieur, mais vous avez été atteint par le tabac. Et vous devez maintenant cesser ou sinon vous allez souffrir davantage, vous allez peut-être mourir. Alors pourquoi est-ce que cet homme pourrait-il blâmer Dieu pour ce qu'il a fait? Il a lui-même provoqué la maladie ou la déficience dans sa santé. Donc nous savons que parfois par négligence ou par indulgence ou par imprudence de quelque manière, nous allons souffrir par nous-mêmes à cause de nos propres fautes. Et puis, ce n'est pas toujours à cause de ce que nous avons fait que nous souffrons. Ça a été un peu la conclusion des amis de Job. Si vous lisez le livre de Job, ses amis accusaient Job d'avoir fait quelque chose de très mal parce qu'il n'aurait pas souffert comme il souffrait s'il n'avait pas péché contre Dieu. Donc Job, tu dois avouer que tu es grand pécheur ou sinon tu ne souffrais pas tant. Mais Job se défendait, il dit, je n'ai rien fait. Dans sa conscience, il n'était pas conscient d'avoir fait quelque chose et pourtant il souffrait. Mais cette conclusion de ses amis a été souvent la conclusion de beaucoup de gens. Comme par exemple lorsque Jésus voyait un homme qui était aveugle-né dans le 9e chapitre de Jean. Les disciples demandent à Jésus qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle. Et Jésus dit, ce n'est lui ni ses parents. Donc on ne souffre pas toujours à cause de ses propres péchés, mais on souffre parfois à cause des péchés d'autrui. Nous avons connu une jeune fille qui a été frappée par une automobile conduite par un soulard. Elle n'était pas responsable d'avoir été frappée, mais quelqu'un était responsable. Donc il y a des gens qui sont responsables pour les souffrances des autres. Parfois les enfants souffrent à cause des méfaits de leurs parents. Quelqu'un qui a été arrêté pour vol, par exemple, va en prison. Ses enfants en souffrent à cause de cet emprisonnement. Donc nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent à cause des péchés d'autrui. Mais il y a aussi des personnes qui souffrent, et on ne peut pas dire que c'est à cause de ce qu'ils ont fait, ce n'est pas à cause de ce qu'un autre aura fait, mais c'est parce que nous vivons dans un monde qui est atteint par le péché. Et le péché est épidémique. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et depuis le temps d'Adam et Ève, il y a beaucoup de personnes qui souffrent la maladie, qui souffrent dans la chair, qui souffrent surtout la mort à cause du péché dans le monde. Et c'est ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit dans le 3e chapitre de la Genèse, après la chute d'Adam et Ève. Dieu dit à l'homme, je mettrai, ou à Satan d'abord, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Satan est puissant. Il n'est pas aussi puissant que Dieu, mais il est puissant. Et Satan agit dans le monde. La parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous l'empire du mal. Donc, nous souffrons très souvent, non pas à cause d'un péché personnel, ou à cause d'un péché direct d'un autre, mais nous souffrons parce que nous vivons dans un monde où le péché existe. Et il y a donc des souffrances, des épreuves qui arrivent du fait que nous sommes descendants d'Adam et que nous avons dans le monde cette maladie, cette épidémie qui s'appelle le péché. Donc Dieu a dit à l'homme, d'abord à la femme, il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Les femmes souffrent à cause de la grossesse et à cause de l'enfantement. Mais c'est parce que le péché est entré dans le monde. Elle n'est pas responsable personnellement de cette souffrance, mais elle en souffre quand même. Et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas en manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, ils te produiront des chardons et des broussailles. Et tu mangeras l'herbe de la campagne, la sueur de ton front. Donc Dieu dit que l'homme va souffrir. Donc la souffrance est dans le monde à cause du péché qui est général, qui n'a pas péché. Et nous sommes tous en partie responsables, mais nous ne sommes pas personnellement responsables pour tous les pays, pour toutes les souffrances qui nous arrivent. Et puis je vous dirai que nous souffrons à cause du fait que Dieu a permis que nous passions par l'épreuve afin que nous puissions nous laver de l'accusation de notre adversaire, le diable, que nous servons Dieu par intérêt. Et voilà ce qui est arrivé à Job. Revenons à son cas. La Bible nous dit que lorsque les fils de Dieu se réunissaient devant Dieu un jour, Satan était présent. Et je ne sais pas si je comprends pourquoi Satan était là, mais il était présent. Et Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Oh, je viens de la terre, de parcourir la terre, de m'y promener. Et Dieu dit, est-ce que tu as remarqué Job? Job est un homme intègre. Job est un homme juste. Il est un homme qui me craint et qui me sert. Est-ce que tu as regardé Job? Satan dit, mais ce n'est pas pour rien qu'il te sert. Ce n'est pas pour rien et qu'il est intègre. Tu l'as béni. Tu as mis autour de lui comme une haie. Tu l'as protégé. Tu lui as donné beaucoup d'animaux, beaucoup de bétail. C'est normal qu'il te serve. Alors Dieu dit à Satan, tu peux prendre à Job tout ce qu'il a. Il avait 7000 brebis. Il avait 500 paires de bœufs. Il avait 500 ânesses. Il avait des chameaux en grande quantité. Il avait beaucoup de serviteurs. Il avait 7 fils et 3 filles, 2 très belles filles. Dieu dit, tu peux lui prendre tout ce que tu veux, seulement tu ne toucheras pas à sa vie. Donc Dieu a permis, il n'a pas été responsable pour les souffrances de Job, mais il a permis à Satan de lui enlever tous ses biens. Dans un jour, il a tout perdu. Ses serviteurs viennent lui dire, il y a des Sabiens qui ont enlevé tous les brebis et il n'y a que moi qui suis resté pour venir te dire la nouvelle. Et puis d'autres qui viennent, n'est-ce pas, tous les chameaux sont partis, il y a les ânes, il y a les bœufs, ils sont tous partis. Et puis il y a un serviteur qui vient lui dire, un tourbillon de l'Orient est venu frapper la maison où tous ses enfants faisaient festin. Et la maison s'est écroulée, et ils sont tous tués. Donc tout cela arrive dans un jour. Dans un jour, il a tout perdu, sa famille, tous ses biens. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a tant souffert? Pourquoi est-ce que tout cela lui arrive? Job n'avait rien fait de mal. Ce n'était pas à cause du péché de ses voisins, nécessairement, mais c'était pour donner à Job la possibilité de prouver que ce n'était pas par intérêt qu'il servait Dieu. de se laver de cette accusation de Satan. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants qui ont souffert la persécution, qui ont souffert atrocement à cause du fait que Satan est là pour les accuser devant Dieu. Et Dieu leur donne la possibilité de prouver que leur foi est sincère, que leur foi est inébranlable, et ils serviront Dieu même si c'est au coût de leur vie. Donc je vois toutes ces raisons pourquoi les gens peuvent souffrir. J'espère que si nous souffrons, ce ne sera pas à cause de nos propres imprudences, de nos propres fautes, mais nous ne pouvons pas éviter parfois de souffrir à cause du péché des autres, ou de souffrir parce que le péché est dans le monde, il y a des épidémies, il y a des enfants qui meurent, il y a toutes sortes de malheurs qui arrivent, mais le péché est là, et nous ne pouvons pas quand même expliquer, nous ne pouvons pas éviter de souffrir à cause de ces choses. Et parfois Dieu nous permet de souffrir aussi pour montrer au monde et pour montrer à Satan que nous servons Dieu par sincérité et avec une foi qui ne sera jamais ébranlée. Mais toutes les souffrances que nous souffrons, nous les souffrons non pas parce que Dieu le veuille, non pas parce que Dieu nous tente ou nous fait souffrir lui-même, mais il permet la souffrance, comme il a permis à Job de souffrir. Job n'avait rien fait de mal, mais Dieu dit à Satan, dans le premier chapitre, tu peux lui faire souffrir, tu peux lui enlever tes biens. Donc Dieu permet parfois que nous souffrons, et c'est pour une raison parfois impondérable pour nous. Nous ne pouvons pas toujours savoir pourquoi Dieu nous permet de souffrir. Mais ce que nous voulons voir, c'est que si nous souffrons, si Satan même, qui est très puissant, nous fait souffrir, ou si nous souffrons à cause des fautes d'autrui, nous pouvons toujours savoir que Dieu est capable de se servir de ses souffrances afin de pouvoir nous bénir. Et c'est cela, n'est-ce pas, que je voudrais tâcher de vous faire comprendre ce soir, si je le peux. Je ne suis pas plus capable que Job ou David de vous expliquer, n'est-ce pas, la raison de toutes les souffrances, ou pourquoi Dieu ne met pas terme à toutes ces souffrances. Job demandait lui-même pourquoi Dieu ne mettait pas terme à ses souffrances, comme nous lisons en chapitre 14 de Job, verset 13. Oh, si je voulais me cacher dans le séjour des morts. Il aurait bien voulu mourir tellement il souffrait. Il était couvert d'un ulcère depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la terre. Il souffrait énormément, atrocement. Donc il aurait voulu souffrir. Si je voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir en secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise. Et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. Job aurait voulu que Dieu mette fin à ses souffrances. Mais Dieu l'a laissé souffrir quand même. Pourquoi? Mais ce que nous pouvons savoir, c'est que quoi qu'il nous arrive, quelle que soit l'épreuve, parfois c'est la perte d'un bien-aimé, parfois c'est la perte d'un emploi et nous sommes laissés vraiment sans aucune ressource, parfois c'est des amis qui nous abandonnent, parfois c'est la maladie, c'est la souffrance dans le corps. Mais quelle que soit l'épreuve, Dieu peut s'en servir pour notre bien. C'est ce que Paul nous dit en Romains chapitre 8, au verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc voilà la condition. Il faut aimer Dieu, comme Job a aimé Dieu. Lorsque Job a tout perdu dans un jour, vous savez ce qu'elle a dit? Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit le nom de Dieu. Et il n'a pas accusé Dieu de ses lèvres. Donc Job acceptait la souffrance, bien qu'il ne comprenait pas, il n'a jamais compris. Tout cela, pour Job, s'est passé dans les coulisses entre Dieu et Satan. Job n'en était pas conscient. Mais nous savons que Dieu a permis à Job de souffrir. Et Job a accepté cela. Il avait l'intégrité de foi qui lui permettait de dire, même si on me tue, je ne l'abandonnerai pas. Même s'il me tue. Donc, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous devons avoir cette confiance que quoi qu'il nous arrive, Dieu s'en servira pour un bien que nous ne comprenons peut-être pas au moment même. Et puis par la souffrance, Dieu peut nous rapprocher de lui. Dans les psaumes, je vous disais tout à l'heure que le psalmiste n'a pas compris pourquoi lui-même souffrait. Mais dans le psaume 119, au verset 71, David dit, ou le psalmiste, je ne sais pas si c'est David cette fois-ci, mais il dit, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon d'être humilié, que ce soit par la souffrance, par l'épreuve ou n'importe quoi, afin que j'apprenne tes prescriptions. Donc, parfois, Dieu nous laisse souffrir pour nous rapprocher de lui, pour que nous nous appuyions davantage sur lui. Évidemment, cela dépend de la manière dans laquelle nous répondons, que nous réagissons à la souffrance. Il y a des gens qui souffrent et à l'encontre de Job ou du psalmiste qui se rebellent, qui s'aigrissent et qui accusent Dieu et qui ne veulent pas accepter la souffrance et ils abandonnent le peu de foi qu'ils avaient peut-être déjà. Mais par contre, il y a d'autres qui souffrent et par la souffrance, ils sont rapprochés de Dieu. Il y a peut-être des personnes qui, pour la première fois dans leur vie, ont pensé à Dieu et ont besoin de servir Dieu sur leur dos sur un lit d'hôpital. Donc nous voyons que Dieu peut se servir du mal dans notre vie pour nous rapprocher de lui. Le psalmiste dit aussi dans le même psaume 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc j'étais peut-être insouciant envers Dieu. J'étais négligent envers mes devoirs vis-à-vis de Dieu avant de souffrir, avant d'être humilié. Maintenant, il dit, j'observe ta loi. Alors, ayant été humilié, ayant été peut-être abattu par une épreuve quelconque, je reconnais que je devais quand même me rapprocher de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous discipline très souvent. D'ailleurs, Dieu peut se servir des souffrances dans la vie pour améliorer notre caractère, notre personnalité. En Hébreu, chapitre 12, l'écrivain, je pense que c'est Paul, mais ça n'a pas d'importance, c'était un écrivain inspiré, il nous dit que la souffrance dans la vie, c'est une sorte de discipline. Voici ses paroles. Hébreu, chapitre 12, à partir du verset 7. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. Un père qui aime ses enfants va discipliner ses enfants, il va corriger ses enfants. Parfois, il doit même peut-être punir son enfant. Mais ce n'est pas pour le mal de son enfant, c'est pour le bien de son enfant qu'il le fait. Donc il dit que tous les enfants doivent être quand même sujets à la correction. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie si nos pères dans la chair nous corriger pour notre bien. Et je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais petit garçon, toujours à la maison, que mon père devait parfois me châtier, et je le méritais même. Et quand il le faisait, il m'appelait toujours après, quand j'avais eu le temps, n'est-ce pas, de s'envoûter un petit peu, n'est-ce pas, et de réfléchir, il m'appelait tout près de lui, il me disait en mettant ses bras autour de moi, « SF, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, je veux que tu sois un garçon obéissant, que tu sois gentil. » Donc, il me faisait comprendre que c'était pour mon bien. Mais si mon père me corrigeait de cette façon-là, combien plus le Père céleste, je dois me soumettre à sa correction et à sa discipline. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Je sais comment, père, j'ai été parfois peut-être trop vite à punir mon enfant. Peut-être que je n'avais pas compris la situation complètement. Et parfois, j'ai fait mes fautes en tant que père. Mais Dieu ne fait pas des fautes. Dieu est, il est sage. Quand il nous punit, c'est toujours pour notre bien. Donc il dit, si nos pères dans la chair nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon, Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc, Dieu ne nous corrige pas, il ne nous laisse pas souffrir inutilement. C'est pour notre bien. Et nous devons nous soumettre au Père spirituel, à notre Père céleste, afin que nous soyons ainsi formés et que nous soyons corrigés et que notre caractère soit bien formé selon sa parole, sa volonté. Donc il dit en conclusion, toute correction, il est vrai, paraît être d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Quand j'ai été puni comme un garçon, ce n'était pas un sujet de joie pour moi. C'était un sujet de tristesse. Mais dit-il après, tout plus tard, elle produira un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc Dieu nous laisse souffrir parfois afin que nous soyons rapprochés de lui et que notre caractère soit formé d'après sa volonté et que nous devenions de toujours meilleurs et plus saints devant lui. Vous savez que le forgeron, quand il prend du fer pour le former dans quelque manière, il le jette, il le met d'abord dans le feu. Il le fait chauffer, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Et puis il prend le fer et il le bat avec un marteau pour le former. Et puis après cela, le fer est toujours très chaud, il le plonge dans de l'eau froide afin que le métal soit tempéré. Eh bien, Dieu nous traite un peu de cette façon-là aussi parfois. Nous sommes parfois dans les feux d'épreuve. Et parfois nous sommes un peu abattus. Et parfois nous sommes plongés, si vous voulez, dans de l'eau froide. Mais c'est toujours, n'est-ce pas, pour un bien. Dieu nous traite comme ses enfants pour nous former, pour que nous soyons comme il veut que nous soyons. Donc voilà encore une raison pourquoi Dieu parfois nous laisse souffrir. Ce n'est pas parce qu'il veut que nous souffrions, mais il voit le bien qui pourrait en sortir par la suite. Et par la souffrance, comme dans le cas de Job, nous pouvons aussi prouver devant Dieu que nous sommes fidèles, que nous sommes des personnes qui avons mis notre foi en Dieu et que cette foi est inébranlable. Et enfin, par la souffrance, dans cette vie, Dieu nous prépare pour la gloire qui est encore à venir. Celui qui n'a jamais été dans la détresse financièrement, qui n'a jamais eu faim, par exemple, ne saurait pas comprendre combien il est une bénédiction de pouvoir avoir un bon repas devant lui. Mais celui qui a eu faim peut l'apprécier et peut savoir ce que c'est que de vraiment bien manger. Celui qui n'a jamais eu soif, il ne peut pas apprécier un verre d'eau froide. Mais si là on a eu soif, vraiment soif, cette verre d'eau froide sera vraiment apprécié en se reconnaissant. Et de cette façon-là, Dieu, me semble-t-il, nous prépare à la gloire qui sera nôtre à la fin de notre vie si nous avons été fidèles envers lui. En Romains chapitre 8, au verset 18, l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées avec la gloire qui nous sera révélée lorsque Jésus viendra pour transformer notre misérable corps de chair pour qu'il soit conforme à son corps glorifié. Et dans ce passage, il nous montre que même les chrétiens, même les croyants, subissent le résultat du péché dans le monde et nous gémissons dans la chair en attendant la rédemption de notre corps lorsque Jésus viendra pour nous ressusciter à la gloire éternelle. Et puis l'apôtre Paul aussi, en 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, a ces paroles à nous dire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui, on souffre dans la chair. Oui, on est parfois très éprouvé. Mais c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit-il, et même lorsque notre âme extérieure se détruit.